Beurre FM, la rediff.
Midi 13h, masterclass du professeur Henri Joyeux, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Masterclass avec le professeur Henri Joyeux ce matin, émission exceptionnelle. Henri Joyeux, chirurgien, cancérologue et spécialisé dans le vaste domaine de la nutrition thérapeutique et préventive. Vous êtes passionné de l'humain et de l'anthropologique.
En deux mots. Et du cancer, pour l'éviter.
Voilà, exactement. Merci d'être là. Professeur, comment allez-vous?
Je vais très bien.
Avec vos vacances forcées?
Oui, vacances forcées parce que je suis suspendu, figurez-vous, par le Conseil de l'Ordre à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025. Mais attention, J'ai demandé un sursis au Conseil d'État. Donc, peut-être que le Conseil d'État va accepter le pourvoi. Et dans ce pourvoi, j'espère qu'il va accepter un sursis, car j'ai le droit de parler à 100 personnes qui ont des hémorroïdes, mais pas à une seule qui a des hémorroïdes, parce que je ne peux pas lui faire d'ordonnance, je n'ai pas le droit d'être docteur. Je suis professeur de cancérologie, de chirurgie digestive honoraire, mais je ne peux pas soigner un patient. Je peux donner des conseils à 100, mais pas à un.
Pas one-to-one.
Voilà.
Bien, auteur de nombreux best-sellers, et nos sociétés, dites-vous, sont rongées aujourd'hui par des cancers métastatiques.
Malheureusement, dans la société, je dirais, il y a non seulement du cancer individuel, mais vous avez du cancer qui est quand même un paradoxe énorme. En 2024, nous devrions avoir de moins en moins de cancers. Or, dans tous les instituts du cancer, vous avez des grues partout parce qu'on construit. Aujourd'hui, nous avons eu, depuis les 20 dernières années, à peu près 20% de plus de cancers. Et nous attendons pour 2050 une flopée encore supérieure. Donc, un vrai problème.
Mais moi, je vous parlais de cancer idéologique.
Alors, cancer idéologique, ça, c'est un autre sujet.
J'essayais de faire un pont entre votre discipline.
Non, mais l'anxiété qui est actuellement dans la société, avec la peur d'un côté, les Russes qui vont arriver à Paris, avec tout ce que l'on peut imaginer de stress, eh bien, oui, cette anxiété réduit les défenses immunitaires. Et on l'a vu avec le Covid. Vous avez eu des gens qui étaient en bonne santé et qui sont passés en mauvaise santé rien que par un confinement avec un masque où on crachouillait sur un masque et où les virus et les bactéries se multipliaient et on respirait que ça. Bon, ça a été un stress énorme. Et on nous a dit qu'on nous avait sauvé 170 000 personnes. Non, elles n'ont pas été sauvées, elles sont mortes.
Bien. Aujourd'hui, décidément, je n'y arrive pas. Je voulais vous faire parler de cette peur, notamment des musulmans, et de ces idées qui gangrènent la société. Alors, on va parler d'un personnage, parce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que vous donnez des conférences publiques sur l'émir Abdelkader depuis plusieurs années.
Plusieurs années.
Un homme qui vous fascine, là aussi depuis des années.
Étonnant.
Ouais. À quoi devez-vous cette... d'avoir côtoyé l'émir Abdelkader?
D'abord, j'ai fait 2 ans de Maroc en cours. J'ai été très branché sur l'islam, j'ai lu le Coran de A à Z en version française, une bonne traduction, on m'en a beaucoup parlé, j'ai fait le ramadan, etc. J'ai voulu m'imprégner, si vous voulez, dans une société, c'était au Maroc, j'étais à Tanger et j'ai été passionné. Puis je me suis marié, après le Maroc, avec une épouse qui est d'origine algéroise, elle est née à Alger, et elle m'a souvent parlé de sa grand-mère qui parlait l'arabe classique, l'arabe dialectale, qui était infirmière, qui soignait beaucoup de gens dans son quartier à Alger. Et un beau jour, elle m'offre un livre. À Noël, elle m'offre toujours un livre, pas trop gros pour que je le lise, qui s'appelle « La lettre d'Abdelkader aux Français ». Alors je lui dis, mais savais-tu que Abdelkader t'a écrit « Lettre aux Français », ça veut dire qu'il nous a écrit à nous tous, que nous soyons d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Donc je lis ce bouquin, et là je suis fasciné, je relis, et je veux tout savoir sur le bonhomme. Et je lis même jusqu'au livre des Haltes, H-A-L-L-T-E-S, un livre absolument fabuleux, de métaphysique, de science, de philosophie et de spiritualité. Et c'est là que je vais, à partir du Maroc, rencontrer un homme fabuleux aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fawzi Skali, qui est de ce monde, qui est toujours vivant, qui organise tout simplement des festivals de musique sacrée et des festivals de soufisme, où il va m'inviter à plusieurs reprises. Et je donnerai avec lui des conférences à la faculté de médecine de Montpellier sur la personnalité extraordinaire, hors de l'ordinaire de l'émir Abdelkader, Abdelkader qui va véritablement me fasciner en ce sens que cet homme a une luminosité pour le monde d'aujourd'hui. C'est un pont. Il fait le pont entre l'Orient et l'Occident. Il y a souvent incompréhension actuellement entre les deux. Une incompréhension grave. Il ne s'agit pas de ne pas voir, si vous voulez, les problèmes qui peuvent exister de l'un, d'un côté et de l'autre, mais on peut voir un bonhomme comme lui qui a résisté à 60 généraux français de l'armée numéro 1 au monde à l'époque, quand Charles X a décidé d'aller en Algérie en 1830, et donc de 1830 à 1847, ça fait pendant 17 ans, à cheval, il a lutté contre nous, les Français, qui avons quand même à l'époque quelques intérêts, parce que c'était mondial, il fallait partout qu'il y ait des colonies. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini par se soumettre. Attention, pour moi, beaucoup de gens
disent que c'est vrai. Le mot soumettre.
Oui, bon, mais c'est une soumission par rapport à quoi? Ça veut dire que s'il continuait, c'était le massacre. Et je pense qu'il a senti, parce que cet homme était, je dirais, dans une véritable spiritualité où ce qu'il faisait, il l'a écrit, il pensait que c'est Dieu qui guidait ses pas, son cheval, lui-même, etc. Et je pense que c'est une vision, si vous voulez, du responsable politique, au bon sens du terme, du responsable d'un État. Il a fait l'union des tribus algériennes. On ne peut pas dire qu'à l'époque, il y avait la turquisation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une algérianisation, tandis que la France voulait faire une francisation. Mais il a utilisé la France. Il a utilisé la France. Et quand vous lisez la lettre aux Français sur le plan de la science de l'époque, mais il est nettement en avance. Il a tout vu de la science. Alors, il serait là aujourd'hui, ça serait autre chose.
C'est un livre de 1855 qu'il faut expliquer dans le contexte.
1855. Il est à Damas à ce moment-là.
Un petit peu, voilà, le contexte dans lequel il écrit ce livre aussi. Alors, c'est la fin de sa vie quand même. C'est plutôt la dernière ligne.
Il va mourir en 1883 quand même. Donc il a encore
C'est la dernière partie de sa vie.
Voilà. Ouais. Napoléon III. Il lui a permis d'être libéré, puisqu'il a été en prison à Toulon, puis il a été à Pau, puis il a été à Amboise. Les Français l'ont trompé, il faut être honnête. Et les Français lui avaient dit, le duc d'Aumale lui avait dit, « Ok, vous demandez à aller à Damas auprès de Ibn Arabi, il n'y a pas de problème, vous allez y aller. » Et puis ensuite, évidemment, le gouvernement français, qui considérait qu'il avait gagné la guerre en Algérie, a dit « Attends, non, c'est un prisonnier, on le fout en tôle. » Bon, ils l'ont mis en tôle, ça ne s'est pas très très bien passé, puisqu'il a changé de lieu, et c'est grâce à l'évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, avec lequel il était très ami, avec l'évêque d'Alger, il y avait eu des échanges de prisonniers, des choses passionnantes entre ces deux hommes, que...
Alors, attendez, l'échange de prisonniers,
il y a
une histoire, d'ailleurs.
Oui, il y a une histoire.
La légende dit que...
Oui, c'est pas une légende. Ouais. Monseigneur Dupuche demande la libération d'un officier,
d'un prisonnier
qui est officier, parce que la femme de cet officier va pleurer auprès de l'évêque. Le militaire français lui dit, moi, je fais rien. L'évêque joint Abdelkader, et Abdelkader lui donne une leçon magnifique en lui disant, vous me demandez la libération d'un, mais j'en ai beaucoup d'autres, des autres vous en foutez? Là, il se prend une leçon, je dirais, de morale, une leçon de spiritualité, comme vous voulez, et qui est très juste en même temps. Et effectivement, il va y avoir une libération d'égal à égal. Voilà. Bon, donc, c'est un homme qui va créer, et ça c'est capital, le droit humain international, le DHI. Et ce droit humain international, il va le mettre en place bien avant que Henri Dunant... Il pense quand il va à Solferino, parce que Henri Dunant, il va en Solferino pour aller voir l'empereur Napoléon III pour essayer d'obtenir des terres pour les Suisses qui ont besoin de terres en Algérie parce qu'il y a du pognon à faire.
Alors à l'époque, c'était pas le siège du Parti Socialiste.
Non. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Henri Dunant a eu le prix Nobel parce qu'il était très copain avec celui qui donnait le prix Nobel. Il a créé le premier prix Nobel de la paix. Mais je pense très honnêtement, et on en a beaucoup parlé avec Edgar Morin, vous le savez que je connais bien, le premier prix Nobel de la paix, il était pour Abdelkader. Il n'y a pas de problème. Alors, la dispute concernant la soumission, la reddition et tout ça, je trouve qu'elle n'est pas très bonne, d'autant plus que le gouvernement algérien est allé chercher si vous voulez, le corps d'Abdelkader là-bas à Damas, où il avait souhaité être enterré à côté d'un très grand soufi, et il est actuellement à Alger.
Auprès de son maître.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, il était allé à Damas parce qu'il voulait justement marcher sur les pas de Ibn Arabi.
Exactement. Et il faut
son
dire
maître soufi.
Napoléon III lui avait proposé de prendre la présidence ou le royauté ou l'empire arabe du Maghreb. Seulement, il s'avère que le père d'Abdelkader était le représentant du Maroc, du sultan du Maroc, sur Tlemcen. Donc, il y avait des choses complexes dans sa tête. Et lui, quand il a eu une certaine autonomie grâce à des généraux français qu'il avait gagné à la guerre, il avait une partie de la principauté ou de la zone d'Oran, de l'Oranie, si vous voulez. Non, l'histoire est absolument passionnante et cet homme a pu résister d'une manière, je dirais, comment dire, à la fois philosophique et glorieuse. Et quand il est arrivé en France et qu'il a été libéré par Napoléon III et qu'il est allé à Damas avant,
Ça a pris du temps quand même.
Ça a pris du temps.
Et Napoléon III a fini par se résoudre à cette idée de le libérer.
Ouais. Et là, il a vu le bonhomme. Il a vu le bonhomme et il le lui a dit d'ailleurs. Et quand il a sorti sa lettre en 1855, eh bien, en 1855, il a eu une phrase extraordinaire. Si l'on m'avait écouté, les chrétiens et les musulmans se seraient entendus comme des frères. Mais le problème, là, je traduis, je change un peu, c'est qu'ils ne m'ont pas écouté. Qui, moi? Or, lui, il a sauvé plus de 10 000 chrétiens à Damas, qui allait être massacré par les Druzes. Des Druzes, il y a eu des massacres assez importants. Et du coup, il a été décoré, à la fois, ça s'est jamais arrivé, par le pape de l'époque, Pie IX, par l'Alexandre II, qui était le tsar de Russie, et en même temps, par Napoléon III. Bon, c'est un homme qui a fasciné, même le maréchal Bugeaud a dit de lui, même Bugeaud, qui a quand même tout fait pour l'attraper, même Bugeaud a reconnu que c'était un grand bonhomme.
Après, Bugeaud, on a du mal. C'est l'inventeur des enfumades, vous voyez.
Oui, oui. Enfin, il l'a écrit quand même.
Ouais, bon,
il est devenu maréchal.
Bugeaud, vous voyez, il y a des mots comme ça qui.
Oui, mais
qui
bon,
sont
qu'est-ce
plus,
que vous voulez.
Plus, oui.
Il était aux ordres, hein. Il était aux ordres du roi des Français, puisque le roi de France est devenu roi des Français sous Louis-Philippe, hein, alors que c'était Charles X qui était roi de France.
Charles X,
C'est Charles X qui a pris la suite de Louis XVIII.
Alors d'ailleurs, vous parliez d'Oran, mais le président algérien,
actuel.
Oui, actuel. Tebboune a décidé finalement de débloquer une enveloppe, hein, pour rendre hommage à l'émir Abdelkader avec une statue de 42 mètres
exact,
de haut,
oui.
Sur le mont Murjadjo pour les Oranais. Il va y avoir un musée aussi émir Abdelkader.
J'irai le voir.
Voilà. Visiblement c'est un gros projet, hein, qui est en train.
Oui,
de,
oui, oui. J'ai vu ça et je pense que ça se comprend. Ça se comprend. Par contre, ce que je trouve inadmissible, c'est que en France, quand il y a eu des choses qui se sont passées au château d'Amboise, il y a des gens qui sont des excessifs, qui sont allés détruire, abîmer, je sais pas quoi. Ça, c'est pas acceptable. Il faut respecter le passé.
Le professeur Henri Joyeux est là avec nous. On parle pas de santé, on parle d'une figure que vous aimez, hein,
tout à
professeur,
fait.
C'est l'émir Abdelkader.
La masterclass du professeur Henri Joyeux continue dans un instant. Beurre FM, la rediff. Beurre FM, midi 13h, masterclass du professeur Henri Joyeux, présenté par Philippe Robichon.
On parle de l'émir Abdelkader ce matin avec le professeur Henri Joyeux. Alors, je ne sais pas si vous êtes un spécialiste, mais vous en savez quand même un sacré rayon. Hein,
ah, j'ai lu beaucoup de choses.
Ouais.
J'ai préparé un gros diaporama en deux parties. L'Algérie, depuis, entre guillemets, ses origines, parce que ça ne s'appelait pas l'Algérie. Hein. C'était les Turcs qui tenaient toute cette zone et qui tenaient en même temps la Méditerranée. Bon, et puis ensuite, à partir du moment où la France arrive, ben oui, il va falloir se battre contre la France, ce qu'on peut comprendre. En réalité, la bagarre va être une bagarre entre les musulmans qui considèrent que cette armée française sont des chrétiens. Voyez, donc ça va être une bagarre un peu religieuse. Il faut être honnête, il faut le reconnaître. Et je pense que cette bagarre religieuse, il faudrait trouver les moyens d'en finir. Et pour en finir, il n'y a pas de doute qu'il faut qu'il y ait des ponts entre les deux, et pas des oppositions. Et les ponts sont en train d'être construits, et je dirais que l'émir Abdelkader a été le premier à faire le pont, et que le pont actuel de l'autre côté, c'est peut-être le pape François. Et comment ? Parce qu'il est allé vers les sunnites avec le patron du Caire, de la grande mosquée du Caire, avec lequel aux Émirats Arabes Unis il a signé un papier de fraternité.
Ouais.
Exactement. Mm-hmm. Et puis ensuite il est allé en Irak auprès d'un grand chiite, puisque faut pas oublier que l'islam c'est les sunnites, les chiites et le soufisme qu'on considère un peu, à mon avis un peu trop, comme une secte. Parce qu'une secte, si on parle de secte en France, c'est quelque chose à mettre sur le côté. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir, sauf si on voit les derviches tourneur en Turquie, c'est du tourisme.
Mais
ça,
d'où parlez-vous pour dire ça ? Parce que vous, vous êtes un chrétien assumé.
Oui, j'assume, oui.
Voilà, fervent chrétien, votre femme vous fait découvrir donc l'émir Abdelkader.
Tout
après,
à fait.
Vous,
et le soufisme.
Et vous avez, vous lisez le Coran,
oui.
Dans une tradition de...
Française, hein ?
Oui, française.
De Régis Blacher.
Voilà, c'est pour ça que c'est une traduction, mais bon, vous
oui,
dites, certains vous diront que c'est une interprétation
oui, bien sûr.
Du Coran de Régis Blacher. Donc là aussi, donc première approche finalement de l'islam,
oui.
Du monde musulman, puisque vous exercez pendant 2 ans à Tanger.
À Tanger, tout à fait.
Hein, vous rencontrez les musulmans,
oui.
Avec des événements incroyables qui vont marquer votre vie d'ailleurs.
Absolument.
Hein, qui,
absolument.
Vous avez été fait Hajj sans aller à la Mecque.
Oui, alors ça c'est absolument incroyable.
Alors, je ne sais pas si ça a été validé par l'imam Abdelali Mamoun, mais on vous a déclaré Hajj avant d'aller à la Mecque.
Écoutez, c'était le 29 ou 30 janvier de 1969. Je dors 3h du matin, je suis pas en boîte de nuit, quoi. Bon, et donc on me réveille. Tout bip, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, vous n'avez pas le temps de vous habiller, vous êtes en pyjama, vous mettez les babouches, une blouse blanche, et vous descendez, vous faites 10 marches d'escalier et vous y êtes. Et là, il y a un jeune qui a à peu près mon âge, 24-25 ans, et qui vient de se prendre un coup de couteau ici, dans la région précordiale, devant le cœur. Bon, il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas de couteau, mais il y a la plaie. Je vois bien, ça saigne pas beaucoup, mais ça saigne. Il est extrêmement agité, il hurle, et je dis à mes infirmiers qui sont là, très sympa, vous me l'attrapez, vous me l'allongez, que je puisse l'examiner. Avant, je regarde dans le dos pour savoir si le couteau n'est pas sorti de l'autre côté, ce qui me permettrait de savoir la longueur. Bon, il n'y a pas de sortie de l'autre côté, donc je me dis jusqu'où est-il rentré, ce couteau. Bon, je l'allonge. Non, je n'arrive pas à l'allonger parce qu'il veut s'asseoir en permanence, mais c'est les infirmiers qui l'attrapent et qui vont véritablement l'allonger. Et devant moi, voilà qui s'arrête de respirer. Je prends son pouls en inguinal au cou, pas de pouls, le cœur est arrêté. Je regarde, il attaque une mydriase. Ça veut dire que son iris s'ouvre comme celui d'un mort. Bien, là, mon sang ne fait qu'un tour, c'est le cas de le dire. Je le prends dans mes bras. Les deux infirmiers, je leur dis, tu m'ouvres le bloc opératoire. Il me dit, Toubib, il est fermé. Je m'en fous, tu défonces la porte. Un coup de pied, il défonce la porte. Je le mets sur la table, passe-moi un bistouri. Je prends le bistouri, je passe entre deux côtes pour, évidemment, j'ai pas besoin d'endormir.
Sans anesthésie, hein.
Sans anesthésie, oui. Il est mort.
Ouais.
Bon. Donc, j'arrive, je prends un flot de sang de son thorax, ce qui est logique, puisqu'il vient de prendre un coup de couteau dans le cœur. Tout ça sur les babouches, et je prends un écarteur, j'écarte entre deux côtes, il est mort. Donc il n'y a pas besoin d'anesthésie, de quoi que ce soit. Et là, un peu de lumière, je vois la plaie sur l'oreillette gauche de son cœur qui, à chaque battement, devait donner du sang, mais là, il ne bat plus son cœur. Qu'est-ce que je fais ? Je le prends et je le masse. Vous voyez, ça me fait presque trembler de... Bon...
De repenser à la scène.
Ah ben oui, bien sûr. Et il se met à fibriller, comme vous voyez fibriller avec ma main, et tout d'un coup, paf, il se contracte. Une, deux, trois, du nom de Dieu, il est en train de repartir. À ce moment-là, mon père m'avait appris une technique chirurgicale formidable. Je prends une grosse seringue, je prends le sang qui restait dans le thorax, je le donne à l'infirmier anesthésiste qui n'est pas là pour endormir le patient, et qui lui envoie ça dans l'avant, dans les veines. Et le cœur repart, et le cœur repart, et le cœur repart. Bon, je nettoie tout ça, j'aspire, je nettoie, je referme. Il est 6h à peu près du matin, c'est 6h30, je vais me coucher en me disant, tu as fait la connerie de ta vie. C'est de l'orgueil, c'est de la connerie, ça va faire un type qui a un légume. Il a passé plus de 4 minutes mort, c'est pas possible, bon, j'arrive pas à dormir. Et vers 7h, une demi-heure après, je me lève. il n'a pas besoin de vider les produits anesthésiques, il n'en a pas reçu. Je vais dans la chambre, il est assis, il me dit « Toubib, comment vas-tu ?» Il est réveillé, il est en pleine forme, il a son cerveau qui marche, absolument incroyable. À ce moment-là, mes infirmiers et tout l'hôpital vont le savoir, ils vont me faire une fête, ils vont m'offrir un, des babouches qu'il faut que je change parce qu'elles étaient pleines de sang, deux, une djellama, trois, le tarbouche, etc. Ils vont me faire une fête à laquelle je ne comprends pas grand-chose. Je sais que c'est une fête pour le jeune qui s'en est sorti, très bien. Mais ils vont m'expliquer que la sourate, je crois, 5.32, dit... Si tu sauves un musulman, c'est comme si tu les as tous sauvés. Tu en tues un, c'est comme si tu les as tous tués. Et donc, je vais comprendre a posteriori, par cette sourate du Coran, et ils vont me dire Hadj, je ne comprends pas ce que ça veut dire, Hadj à l'époque. Et ils vont m'appeler père, je ne suis pas père.
Bon, j'étais beaucoup trop jeune pour ça à l'époque.
Voilà, exactement. Ouais. Mais je n'ai pas eu à aller à la Mecque, vous voyez. Mais j'ai des amis qui sont allés à la Mecque.
Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, dans cette période, vous vous êtes posé la question de savoir si vous deviez vous convertir ou pas.
Mes parents l'ont cru. Honnêtement,
à un moment donné, quand vous découvrez l'islam, est-ce que vous vous dites finalement...
Non, parce que l'ayant lu le Coran, j'ai vu dans le Coran beaucoup de choses que je connaissais de l'Ancien ou du Nouveau Testament, première chose.
Ouais.
Deuxième chose,
il y a beaucoup de similitudes.
J'ai été quand même fortement gêné par un certain nombre d'affirmations, je ne sais pas comment il faut appeler ça, dans le Coran, concernant le féminin. À l'époque, je n'étais pas marié. Bon, d'accord. J'avais beaucoup de nanas qui me tournaient autour, mais je savais qu'il ne fallait pas toucher. Bon, donc, vous savez, on ne touche pas. Si on vous dit qu'il ne faut pas toucher, vous ne touchez pas, quoi. Bon, voilà, il faut se retenir, il faut un peu d'humour, etc. Bon, mais j'ai aidé des copains à se marier en disant ouais, celle-là elle est chouette, tu peux y aller, tu as une belle femme.
Vous n'avez pas pensé à vous convertir.
Non.
Mais par contre, vous découvrez une religion et vous découvrez une société, finalement, peut-être dont vous aviez une fausse opinion.
Zéro opinion. Zéro opinion, franchement.
C'est-à-dire qu'en 69, il n'y avait pas toutes ces idées véhiculées.
Il
n'y
avait pas toutes les idées qu'il y a aujourd'hui.
Il n'y avait pas Pascal Praud à la télévision.
Non, il n'y avait pas tout ça. Ah bah attention, ça a énormément changé. Et puis, on n'opérait pas, quand j'étais interne des hôpitaux, quand on soignait des gens, c'était des gens qui étaient de notre couleur, de notre formation, de notre... Bon, voilà. Et puis, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, je raconte une histoire extraordinaire. Je suis en consultation au centre anticancéreux à Montpellier. Bon, un bonhomme rentre. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Manifestement, il n'est pas d'origine française. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Il me dit, non, je ne suis pas malade. Et pourquoi vous venez me voir? Il me dit, une seconde. Et puis, derrière lui, je ne l'avais pas vu, il y avait deux grands cartons. Il ouvre un grand carton, il ouvre l'autre grand carton, et je vois des portraits de l'émir Abdelkader. Et il me dit, choisissez. Je regarde, je lui dis, moi, c'est celui-là que je préfère. Là, il se met à chialer, il tombe dans mes bras, il me dit, je suis le maire de Mascara. Mascara,
c'est là qu'il est... En Algérie.
Bon. Je suis le maire de Mascara, j'ai foutu le camp parce qu'il y a eu des problèmes en Algérie, etc. Bon. Mais le type était dans une émotion extraordinaire, et moi aussi, j'ai eu cette même émotion. Et je peux vous dire que dans mon bureau, vous avez l'émir Abdelkader qui est...
C'est toujours des portraits dans
Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai une affection, comment vous dire, à la fois spirituelle, philosophique et scientifique. Ce type, aujourd'hui, enfin ce type, je ne dirais pas ce type, l'émir Abdelkader serait là aujourd'hui, je puis vous dire qu'il serait sur l'intelligence artificielle. Voilà. Et avec son soufisme, ça serait un homme de paix, et c'est un homme qui aujourd'hui, je dirais, ferait ce qu'il a fait quand il était à Damas, où il a sauvé énormément de gens. Je ne serais pas là pour sauver des gens qu'on est en train de massacrer, mais il dirait à tous ceux qui sont dans le délire complet, je dirais, des excès des uns ou des autres, que ce soit dans l'islam ou que ce soit chez les juifs ou que ce soit chez les chrétiens, il dirait arrêtez, moi je vais vous aider à vous entendre.
Comment est-ce qu'il a sauvé les chrétiens à Damas?
Parce qu'il a vu les massacres et que ce type, l'émir Abdelkader avait eu une formation par Mgr Dupuis et Mgr Pavy qui lui a succédé.
Les deux évêques
d'Alger, si vous voulez. L'un est arrivé dans les années 58 à peu près, l'autre est arrivé un petit peu plus tard. 38 pour le premier, puisqu'ils se sont connus avec l'émir.
1838.
Oui, 1838, alors que l'émir, il a abdiqué, ou il s'est soumis en 1800, à la veille de Noël. Et une chose importante, le livre qu'il a publié sur la lettre aux Français est sorti le jour de la Pentecôte. Il savait ce que c'était la Pentecôte. C'est-à-dire, la Pentecôte, c'est l'esprit, si vous voulez, de la sagesse, l'esprit du bien. Il le savait certainement. Bon. Donc, c'est là qu'il fait le pont, véritablement, entre chrétiens et musulmans. Sur les juifs, moi, je ne l'ai pas vu, ou dans tout ce que j'ai lu, dire des choses qui soient, je dirais, antisémites. Absolument pas. Absolument pas. Et aujourd'hui, il serait là pour dire certainement à Israël qu'il a besoin de se calmer et d'arrêter ce qui était en train de se passer, qui était absolument épouvantable, évidemment, pour nos frères palestiniens. Bon, je veux dire, c'est un homme de paix, c'est un homme qui est pont entre, je dirais, les différentes religions qui relient, y compris même parce que le Grand Orient a essayé de l'attraper.
Alors, ça, c'est une histoire qui a beaucoup circulé.
Oui. Hein,
bon, on va en parler après la pub. Mais
si vous voulez,
parce que ça prend du temps.
C'est un sujet intéressant.
Mais c'est vrai qu'il y a, alors il y a beaucoup, il y a beaucoup d'écrits hein, là-dessus Abdelkader était franc-maçon. Donc vous
pouvez... Moi, je vous dis qu'il l'a pas été parce qu'il a écrit, qu'il refusait. Mais il a été initié, c'est tout à fait exact. Et le jour où il a compris que le Grand Orient, pas la GLMF, mais que le Grand Orient était athée. Il a dit non. Moi, je suis croyant, je crois en un Dieu, en Dieu, le Dieu au fond des trois religions monothéistes. Hein.
Mais si le professeur Joyeux, je vous dis qu'il faut le dire après la pub, Parce que si vous le dites avant la pub,
on peut creuser.
La masterclass du professeur Henri Joyeux continue dans un instant. Beurre FM, la rediff. Beurre FM, midi 13h, masterclass du professeur Henri Joyeux, présenté par Philippe Robichon.
On parle de l'émir Abdelkader avec le professeur Joyeux aujourd'hui, et on en parle avec le professeur Joyeux, puisque l'émir Abdelkader est une figure que vous aimez
lumineuse.
Beaucoup, voilà, que vous appréciez beaucoup,
ouais, j'apprécie beaucoup oui.
Dont vous appréciez notamment une des dimensions, c'est sa dimension spirituelle.
Oui, dimension spirituelle qui fait que... Certes, il a fait le djihad à la France, c'est-à-dire une guerre sainte, puisque comme je l'ai dit, il a été considéré que ces soldats français qui arrivaient au début 30 000, et puis il y en a eu encore beaucoup plus, c'était des chrétiens. Bon, des soldats chrétiens, si vous voulez. Et c'était pas faux. Bon. Et en face, vous aviez des musulmans. Donc, ça a été considéré comme djihad, guerre sainte, des musulmans contre les chrétiens. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est sûr qu'il a évolué dans sa conception du christianisme à un point tel qu'il a rencontré des gens qui l'ont fait comprendre ce que c'était que le christianisme, et qui n'était pas un christianisme guerrier, qui n'était pas simplement des militaires à la Bugeaud ou aux 60 généraux français auxquels il s'est confronté. Bon, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé en France, il y avait déjà en France, sous Louis-Philippe, des francs-maçons qui étaient actifs, et certainement les orléanistes de Louis-Philippe étaient dans cette tendance, si vous voulez, une tendance philosophique, pour ne pas dire anti-religieuse, que nous voyons aujourd'hui d'ailleurs, qui est très anti-religieuse, mais à l'époque elle était peut-être moins anti-religieuse qu'elle l'était, et donc ils ont aspiré cet émir Abdelkader, parce qu'il y a eu une véritable, je dirais, adoration, c'est un peu fort le mot, des Français vis-à-vis de cet homme qui était libéré par Napoléon III, qui était au sommet de son état d'empereur. Bon, il est allé en Algérie, Napoléon III, il est allé deux fois. Une fois, trois jours, il est vite rentré. Une autre fois, il y restait plusieurs mois, alors que sa femme était à Paris pour essayer de gérer le pays. Et il s'est promené en Algérie d'une manière tout à fait banale et sans aucune difficulté. Alors, donc, les francs-maçons ont essayé de l'attraper. Effectivement, il y a eu la loge Henri IV, la loge Alexandrie, qui ont essayé de initié. Et il a été initié sur le plan philosophique. Et puis un beau jour, et ça c'est le professeur Carry qui me l'a montré par des livres qu'il a écrits lui-même, très intéressant, c'est un professeur de pédiatrie à Alger, qui est plus jeune que moi et qui a beaucoup travaillé tous ces sujets, et qui a écrit à la fois un livre sur Henri Dunant et des choses sur l'émir Abdelkader, qu'il a expurgé de tous les documents qu'on pouvait trouver. Il y a une lettre de l'émir qui dit « Je ne veux pas rester au Grand Orient pour la bonne raison qu'ils sont athées et qu'ils ne croient pas en Dieu. Or, moi, Abdelkader, je crois en Dieu. » D'ailleurs, si vous allez place Saint-Georges à Paris, vous avez le musée Thiers, qui est le musée franc-maçon, hein, faut être clair. D'ailleurs, il se le cache pas. Vous demandez, donnez-moi les noms des grands francs-maçons dans l'histoire. Un des premiers qu'on vous donne, c'est Abdelkader. J'y suis allé plusieurs fois. Chaque fois, on me sort Abdelkader. Je dis oui, vous pouvez pas ne pas dire qu'il n'a pas été initié, mais vous ne pouvez pas dire qu'il a été franc-maçon. L'initiation, c'est comme quelqu'un qui est initié au christianisme. À un moment, il semblerait qu'il a peut-être demandé une initiation au sens de mieux comprendre le christianisme. C'est pas parce que vous êtes initié à l'islam que vous êtes musulman, initié au christianisme que vous êtes chrétien.
Alors, on a peut-être exagéré les conditions de sa détention à Amboise.
Oui.
Beaucoup disaient, oui, bon, c'était quand même pas la prison. Hein.
Non, alors attention, là où ça a été dur, c'est à Toulon. Et vous savez que quand il est allé de Toulon à Pau, il a regardé à Frontignan, il est passé par là, il a vu des vignes, il a vu de tout. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Français? Qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous? Il n'y a que des cailloux et du sable. Il ne savait pas encore à l'époque qu'il y avait du pétrole là-dessous. Bon, nous non plus, nous ne le savions pas. Mais quand il est arrivé à Pau, il y a eu des morts dans sa famille. Il est arrivé avec sa smala, c'est-à-dire une partie de sa famille, il y a eu des morts. À Pau, c'est pas le même climat qu'à Alger ou qu'à Mascara, donc il y a eu des morts et c'est pour ça qu'il a été transféré dans un lieu plus sympathique. Et au fur et à mesure de ces transferts, les Français ont pris conscience que cet homme était peut-être pas si méchant que ça, si vous voulez. Et puis il y a eu Charles X, avant il y avait Louis XVIII. De Charles X, on n'est pas arrivé, on a pu comprendre aussi l'histoire de la dette, c'est-à-dire que l'Algérie sous les Turcs avait donné beaucoup de blé à la France, les Français n'avaient pas payé ce blé, et il y a eu l'affaire du consul de France Duval qui s'est pris une claque.
Et bon. Ça serait l'origine,
oui, ça serait un peu l'origine
de l'expédition en Algérie des Français pour cette dette qui était réclamée.
En réalité, les pays européens avaient tous envie d'avoir des colonies, pour dire les choses clairement, quoi. Les Belges ont eu le Congo, les Allemands, ils ont eu Togo et d'autres pays, et chacun a essayer de faire son truc. Et c'est vrai que en Algérie, Napoléon Ier avait envoyé un consul qui était un consul d'origine juive. Et à l'époque, le Turc qui tenait la régence d'Alger, qu'est-ce qu'il a fait de ce consul? Il l'a mis au bout d'un canon, il a tiré, puis il a dégagé, quoi. Bon, on a des images fantastiques qui ont, c'était pas des photos, hein, à l'époque. Mais il y a eu déjà des problèmes avec les juifs à cause, si vous voulez, sous la régence turque. Parce que la régence turque voulait bien que les juifs soient là, mais il fallait que ce soit les Turcs qui dirigent et pas les juifs à l'époque.
L'Algérie a fait de la restitution d'un sabre et du burnous de l'émir Abdelkader une de des conditions de la visite en France du président algérien. Oui. Alors évidemment, on se bat pour récupérer.
Oui, il y a discussion. Moi, je pense que le sabre qui a été donné par l'émir Abdelkader au duc d'Aumale, c'était la soumission. C'est le geste de la soumission. Faut-il le rendre, pas le rendre? Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas à le rendre. Il faut respecter l'histoire. Il l'a donné. Que son burnous, on le lui rende, moi, je ne vois pas des gommes, mais c'est pas à moi de décider de ces choses-là. Mais
à la diplomatie. En tout cas, il y a des discussions.
Il y a des discussions, oui, je sais, oui. Par contre, ce qu'a dit le président Macron, pour être un peu dans l'actualité, concernant la façon dont les Français ce qu'ont fait les Français en Algérie, c'est totalement excessif, à mon avis, et c'est pas respectueux ni des uns ni des autres, et c'est pas, je dirais, des paroles qui peuvent aider à faire le pont, justement, entre ces difficultés qui ont été vécues des deux côtés de la Méditerranée.
S'il y a, on va dire, un événement de l'émir Abdelkader que vous gardez en mémoire?
Moi, je dirais, quand il a voulu aller se réfugier vers le Maroc, les Marocains ont dit « pas question ». Alors que son père avait été le représentant du sultan du Maroc, comme je vous l'ai dit, à Tlemcen. Ça, c'est un événement important qui a fait comprendre à l'émir qu'il était coincé, quoi. Parce qu'il avait les Français sur le dos et que ça allait mal se passer. Et ils étaient déjà passé beaucoup de choses qui n'étaient pas très bonnes pour tous ses frères et sœurs de l'Algérie. Et donc, quand il a vu ça, il y a eu la soumission. Ça, c'est un deuxième élément. Un autre élément, c'est quand il y a eu l'échange des prisonniers. À un moment, vous aviez des difficultés d'alimentation à Alger du côté des Algériens qui étaient en France, des Français qui étaient à Alger, et il a fourni des chèvres, des troupeaux de chèvres pour nourrir les gens. Bon, quand il a créé le droit humain international, c'était un droit des prisonniers. Il confiait des prisonniers à sa propre mère pour qu'ils soient traités correctement. Mmh. Et quand un soldat arrivait en lui disant « Est-ce que tu veux que je t'amène la tête du prisonnier ?» Il a dit non. Par contre, il a fait décapiter certains, pas français, mais certains, je dirais, algériens, qui ne voulaient pas rentrer, qui étaient des tribus, qui ne voulaient pas rentrer dans sa vision de l'union, de la déturquisation pour une algériarisation et pas une francisation.
Alors, vous faites partie de ceux qui militent pour un prix Nobel de la paix à titre posthume.
Oui,
pour
alors ça se fait pas. Ça se fait pas, mais, sûr, mais ouais. Ça peut se réfléchir. Ça peut se réfléchir. Je pense que Henri Dunant, qu'il a eu, il l'a eu avec un autre qui était un militaire, mais c'est Henri Dunant qu'on a reconnu. Les Suisses s'en vantent beaucoup, bien sûr, mais je pense qu'il aurait dû être donné à l'émir Abdelkader avant Henri Dunant.
On va terminer par une chanson, professeur Joyeux. Prayer of the Mother.
Prière de la mère.
Oui.
Alors ça, c'est intéressant, parce que la mère, c'est Marie, et vous savez que dans l'islam, alors que chez les chrétiens ne savent pas si Marie est vierge ou pas vierge, puisqu'elle a eu un bébé qui n'est autre que Jésus, ça c'est officiel, même si Michel Onfray ne le reconnaît pas, ça reste historique. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'islam, Marie a eu un enfant qui s'appelle Jésus et reste vierge, et elle est extrêmement respectée. Moi, je suis allé à la cathédrale d'Alger, à la basilique d'Alger, qui domine Alger, qui est exactement en face de l'église qui est à Marseille, et vous voyez les musulmans qui viennent prier avec les chrétiens, et c'est, je trouve ça extraordinaire.
Alors là, ce sont des femmes de toutes les religions qui chantent cette prière des mères.
sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women, women of integrity and faith, stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.
Masterclass du professeur Henri Joyeux continue dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous retrouver. Vous le savez, on démarre cette semaine avec vous pour commenter, démarrer, décrypter et analyser l'actualité. Alors vous le savez, oui, toujours comme d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes ici même. À la fois d'abord au sommaire de cette émission, nous allons direction Trappes. Trappes où figurez-vous, ce week-end, eh bien une belle star s'est présentée pour inaugurer un cinéma, hein, dédié à Omar Sy. Omar Sy, il y avait du beau gratin, des stars, clochette. Hein. Ah, c'est vrai, c'était une brochette de stars d'ailleurs qui sont venues se présenter pour inaugurer ce beau cinéma. Nous en parlerons avec le maire en personne qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Ensuite, après les débattants influenceurs, eh bien, ils sont quatre aujourd'hui, quatre qui vont s'emparer de la parole pour confronter leur point de vue. Rachida Kaout est avec nous, qui représente Renaissance, une personnalité qui représente les Républicains, c'est Jonas Haddad. Ensuite, l'élu local de Bondy, apolitique a priori, mais bon. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire apolitique. On a toujours une étiquette en général. Hein. Ou sans étiquette, ouais. Bon. Karim Alouache, il est financier. Par ailleurs, il est banquier d'affaires. À ses côtés, journaliste et entrepreneur, c'est Karim Maloum. Voilà, que du beau monde. Ensuite, vous avez vous. 01 53 48 3000. Vous êtes très très nombreux. Vous savez que les audiences sont là. Hein. Franchement, ça fait plaisir, partout en France. Ça vous fait sourire, Jean Lassade. Hein.
Bah oui, moi j'aime bien les gens qui réussissent.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Il faut
gagner. C'est soit on est là pour gagner, soit on est là pour évidemment.
Pour gagner quoi?
Non,
pour végéter.
Ou alors juste comme ça, pour. Voilà, par exemple.
Pour exister.
Moi je dirais pas ça, mais juste.
Il y a beaucoup d'audience.
Ah, exactement. Bah oui, on a d'où. Ouais,
donc c'est vraiment
c'est pas n'importe quelle émission non plus.
Oui, là, tu sais.
C'est pas n'importe quelle, c'est le modérateur aussi.
On va poursuivre le sommaire. Michel, merci. Michel Taube, tout à l'heure, qui sera avec nous à 19h50. Il est éditorialiste, mais il est également aussi le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Il sera avec nous, il va nous livrer, vous savez, son regard comme chaque lundi. Son billet d'humeur, ça s'appelle. Et il sera avec nous tout à l'heure pour nous parler, évidemment, de Glucksmann, qui, selon lui, va tout déchirer. Clochette. Aux Européennes, je parle. Bah écoutez, les paris sont lancés. C'est possible, hein, il fait parier.
Par contre, il a un adversaire, c'est son secrétaire général de Parti Socialiste, Olivier Faure, qui s'oppose à lui.
Bon, voilà. Et surtout de Jordan Bardella, c'est surtout ça. Et les derniers sondages que j'ai reçus par mail, qui sont encore sous embargo, mais je crois que c'est sorti, Jordan Bardella, les amis, ça fait mal. Hein. Il est loin devant Renaissance, Rachida Kaout.
Oui.
Très loin.
Très loin.
C'est les statistiques.
Ça fait flipper.
C'est le chiffre du PS, mais à l'envers, inversé.
C'est les chiffres, si vous voulez, à un moment T, mais après maintenant,
qu'est-ce
les chiffres,
hein, votre,
qu'est-ce qu'on a pris comme référentiel
là, Emmanuel Macron, là, il... Non, il n'est pas en panique, là, non?
Bah, pourquoi paniquer?
Bah, quand on voit Jordan Bardella, c'est pas en tête, là, c'est en tête très loin.
Mais oui, c'est un candidat de communication, c'est un candidat pour la com, en fait. Bah, c'est pas un candidat pour des idées politiques, ni un programme politique.
C'est pas juste, aussi.
C'est pas juste l'échec pour la com, il y en a un peu.
On en parlera.
C'est l'échec des républicains et des socialistes aussi.
Les républicains se cherchent encore. Jonas Haddad, je sais pas ce qui se passe chez vous.
Enfin, on se cherche encore, mais pour l'instant, on se maintient dans les sondages que vous évoquez. Si je compare, vous voyez, quand on se regarde, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se console. Quand je vois ce que fait ce monsieur Zemmour, moi je suis assez content de voir que son parti est en train de s'effondrer.
Oui, mais quand on voyait le score que donnait les
sondages. Monsieur, on en parle tout à l'heure. C'est parti, c'est tout de suite, c'est l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Ah, ça y est, on leur donne le. Vous savez, les politiques, on leur donne le micro, ils se lancent. Hein. On est avec, vous savez quoi?
C'était bien parti. Hein.
On est heureux de l'accueillir. Ah oui, c'était parti, c'est ce que je dis. On est heureux de l'accueillir. C'est le maire de Trappes, dans le 78. Bonjour, monsieur Ali Rabet. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, monsieur Parkane.
Comment ça va? Vous allez bien?
Ben, très bien, merci de m'inviter.
Ben, merci. Qu'est-ce que vous pensez de. Je sais pas de. Vous n'êtes pas là pour ça, mais qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance? On en parlait pendant le micro, en attendant de vous accueillir, justement, en direct. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance européenne, là, les élections? Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher maire?
Ah, c'est étouffant. Écoutez, on a plus d'un Français sur deux qui se contrefoutent cette élection et qui ne s'apprête pas à aller voter. C'est déjà la première inquiétude qu'on devrait tous partager. C'est une forme de désintérêt des Français pour la démocratie, pour l'élection européenne en particulier. Le second élément, c'est évidemment, vous l'évoquiez à l'instant, le fait que le Rassemblement National et la figure de Jordan Bardella submergent cette élection. On est quand même à des pointes à plus de 30%. On est à 32 là dans les derniers sondages que vous évoquiez.
C'est
concomitant avec les élections qui nous indiquent que Marine Le Pen serait en mesure en 2027 de remporter tout simplement le deuxième tour de l'élection présidentielle, quel que soit le candidat face à elle pour l'instant. Donc c'est un climat qui, pour le maire populaire que je suis, est extrêmement inquiétant, puisque face à cette offre qu'elle mérite d'être claire, hein, même si elle n'est pas sérieuse et qu'elle est inquiétante,
l'écart qui se creuse, hein. Moi j'ai le dernier sondage là, je l'ai sous les yeux, je l'ai reçu par mail, l'écart qui se creuse, 12 points entre le Rassemblement National et Renaissance. Absolument. C'est énorme, 12
points. Ça dit quelque chose du rejet massif, ça dit quelque chose du rejet massif vis-à-vis de la politique du chef de l'État, puisqu'il est président maintenant depuis, rendez-vous compte, 9 ans, presque 10 ans. Mais ça dit aussi quelque chose de l'incapacité à proposer d'autres alternatives. Et moi j'en veux beaucoup à mon camp politique, à la gauche, de ne pas être capable de s'organiser, parce que unis, nous aurions à peu près le même score que l'extrême droite, la même force politique au sein du pays, mais notre unité est l'une des conditions de la crédibilité de notre projet, et il faudra la réaliser après ces européennes, puisque à l'occasion de ces européennes, elle n'est manifestement pas possible.
Vous parlez de la gauche, mais visiblement, je crois que Raphaël Glucksmann réussit plutôt son coup, ou on a le sentiment, monsieur le maire?
Franchement, à quoi bon? Enfin, moi, je suis pas très fan, je vous le cache pas, mais 14% ou 12% ou 11% dans certains sondages, j'appelle pas ça réussir son coup.
C'est vrai.
C'est, la question, c'est les équilibres.
C'est vrai.
Vous savez, Yannick Jadot, il avait fait 14% la dernière élection, il s'était vu président de la République, on a vu la suite. Cohn-Bendit, Eva Joly, un peu plus longtemps pour les vieux comme vous et moi, avait fait 20% aux élections européennes pour les Verts, et on a vu la suite.
On va parler, vous savez quoi, vous avez raison, et merci d'avoir répondu à, évidemment, cette question. Vous êtes notre invité aujourd'hui, parce qu'on va parler du cinéma Omar Sy, qui a été inauguré ce week-end, samedi précisément, sur la ville de Trappes, d'accord, dans les Yvelines, en présence de l'acteur, en présence de Jamel Debbouze, en présence de sa femme, Hélène, en présence évidemment de personnalités tout simplement politiques mais aussi autres qui étaient présentes. Dites-moi, d'abord c'est tout un symbole pour les habitants venus en nombre, parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux, ils sont venus répondre présents pour assister à l'inauguration.
Ouais, ça c'est autrement plus réjouissant, hein. On était près de 1000 personnes à l'Assemblée là sur la place. Ça, il a plu toute la journée. On a eu un rayon de soleil dans la journée, le moment de l'inauguration. Il y a des petits miracles comme ça. Et un millier de personnes se sont massées. On peut assister à des séances gratuites, hein, de cinéma toute la journée autour de l'œuvre de d'Omar Sy, et le lendemain dimanche autour de l'œuvre de Jean Renoir, qui est également une grande figure du cinéma français. Et la surprise, c'était évidemment la présence d'Omar Sy et de Jamel Debbouze aussi, qui est venu assister à ce moment important, symbolique et mouvant pour son ami d'enfance, Omar Sy. On a, vous savez, à Trappes, une petite commune, 33 000 habitants, on a plein de richesses, contrairement à ce que le débat médiatique parfois peut laisser voir. Et on a ce petit miracle dans une ville de 33 000, comme il y en a beaucoup d'autres en Île-de-France. Et bien, nous, on a fait émerger des figures artistiques, culturelles, sportives, en nombre extravagant pour une commune de cette taille. Et parmi eux, Omar Sy et Jamel Debbouze, mais pas que, hein, Sofia Rahm, Issa Doumbia, Nicolas Nelka, vous voyez, plein de figures, Alain Degois, Rachid Benzine, enfin, autant de figures intellectuelles, artistiques, politiques qui font rayonner Trappes et ce sont les ambassadeurs de Trappes. Et Omar Sy en particulier, on apprend aussi, on a appris hier qu'il était jury du festival.
On a perdu.
C'est extraordinaire comme trajectoire pour un gamin d'une cité de Trappes.
On a été coupé légèrement, il y a une micro-coupure. Jury du festival de Cannes, j'imagine, vous disiez, hein, c'est ça, hein.
C'est ça. Ouais. Alors, Omar Sy, jury du festival de Cannes au moment où on se parle, ce qui montre un peu la trajectoire absolument extraordinaire de cet enfant d'un square de Trappes, d'une cité de Trappes, qui maintenant brille à travers le monde, qui est connu dans le monde entier. Là, il est également connu au Japon.
Qu'est-ce que ça représente justement pour les habitants des quartiers populaires, pour les jeunes notamment?
Une fierté et un espoir. Vous savez, il y a tellement de raisons d'être pessimiste, tellement de raisons de baisser les bras parfois quand on voit l'hostilité, une forme de climat de haine qui est entretenu contre les habitants des villes populaires comme Trappes, qu'on peut se poser la question de sa place, de sa légitimité. Je suis maire de Trappes, je porte l'écharpe bleu-blanc-rouge et parfois moi-même je me pose la question tellement cette violence politique qui nous est adressée est injuste et médiatique. Et quand on a des figures de rassemblement comme Omar Sy, vous savez, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit blanc ou noir ou arabe, arabe ou musulman ou sans religion, etc., voilé ou pas voilé, tout le monde était massé pour honorer Omar Sy. C'est une figure consensuelle, c'est vraiment une figure de la République française qui rayonne dans le monde, comme d'autres avant lui, comme d'autres après lui. Mais on en est fiers, c'est l'enfant de Trappes et c'est maintenant l'enfant du pays, l'enfant de la France, et il nous honore. Et on a voulu l'honorer à notre tour, en nommant le cinéma de la ville d'après son nom. Et je crois que c'est un beau symbole. Vous savez, en France, et je l'ai dit aussi en conclusion de mon discours, on n'a pas beaucoup de noms de rues, de noms d'édifices publics qui viennent honorer des trajectoires différentes qui font la richesse de ce pays. On a souvent les mêmes noms, on retrouve les mêmes noms de rues d'une ville. Parce qu'on a voulu justement, c'est l'art de, vous savez, on appelle ça l'autonomie, c'est comment est-ce qu'on nomme nos rues, nos places, nos bâtiments. Ben, on a voulu que ce soit aussi une traduction de la reconnaissance que la République, ici la République au niveau municipal, mais la République a pour tous ses enfants, d'où qu'ils viennent, et d'où que viennent leurs parents surtout. Omar Sy, moi, vous probablement, on est nés en France. On est des Français, indéfectiblement, on ne nous l'enlèvera pas, quoi qu'on en dise, et on est des Français, et c'est bien que nous, on reconnaît la France naturellement, puisque c'est notre pays et notre patrie. De temps en temps aussi, c'est important que le pays, ses communes, reconnaissent les enfants de la République. Et nous, on a considéré qu'il n'y avait aucune raison d'attendre le décès d'Omar Sy pour l'honorer. C'est de son vivant qu'on a voulu le faire. Et il a dit que la boucle était bouclée, qu'il avait commencé très jeune, il avait découvert le cinéma avec ce cinéma municipal. Et aujourd'hui, il lui donne son nom. Donc il a le sentiment d'une forme d'accomplissement qui mérite d'être honoré et qui servira, j'espère, quelque part d'exemple à d'autres gamins qui grandiront en passant devant ce cinéma et en franchissant ses portes.
Je n'en doute pas un instant, effectivement, ça peut que servir d'exemplarité auprès des gamins et des jeunes des quartiers populaires, effectivement, vous l'avez dit. Écoutez, bravo pour ce cinéma qui a été inauguré par Omar Sy et ce week-end d'ailleurs. Merci monsieur le maire. Vous avez un message à adresser à ceux qui nous écoutent, notamment en parlant de messages d'espoir?
En conclusion, on ne sera pas tous stars internationales du cinéma, on ne sera pas tous forcément connus à la télévision ou des vedettes, mais par contre, on peut tous être médecin, ingénieur, pompier, boulanger, on peut tous avoir son parcours de réussite personnelle. Et la réussite, ça ne se définit pas par le nombre d'années de diplôme ou par le nombre de followers sur Instagram, mais c'est l'accomplissement en choisissant sa vie, en ne la subissant pas. Donc il faut ouvrir des fenêtres d'espoir, voilà, d'opportunités pour tous les mômes et en particulier pour les mômes. Quartier populaire, on s'y attelle et même ceux qui en prennent plein la gueule toute la journée, qui en ont marre, qui parfois dépriment, gardez de l'espoir. Ce pays, il est magnifique, il ouvre des opportunités, il faut qu'on change ensemble. Et à la fin, c'est ni M. Bardella, ni M. Zemmour qui gagneront, c'est nous, parce que c'est nous la France.
Merci pour ce message d'espoir, M. Ali Rabet, maire de la ville de Trappes dans le 78. Merci, M. le maire, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est un plaisir, au plaisir de vous retrouver. C'est parti pour le face-à-face.
Les informés.
le face-à-face.
Je commence par la seule femme qui est avec nous. Elle est élue sur Ivry-sur-Seine. Elle est également la représentante de Renaissance. Donc prudence à vous tous, hein, ce que vous allez raconter. Je vous le dis tout de suite. Hein, parce qu'elle, elle se laisse pas faire. Elle s'appelle Rachida Kaou. Bonjour Rachida.
Bonjour, bonsoir à tous. Ça va. Je voulais réagir sur ce qu'a dit monsieur le maire de Troyes.
Allez-y. Il est parti là, ça y est. Hein, mais allez-y, réagissez.
Mais vraiment, il a bien tout résumé. Et en même temps, c'est pas une histoire d'appartenance à un parti politique ou à un autre. Ce que je veux dire, c'est que si tous les maires de France raisonnaient comme lui, honnêtement, on avancera énormément.
Comme
sur...
lui, le maire de Saint-Ouen, il est comme ça aussi.
Oui, mais que ça se diffuse vraiment de manière massive. Mmh. Ça évitera d'avoir ces montées, justement, des partis d'extrême droite et puis aussi de tous ces manipulateurs qui montent les populations les unes contre les autres. Donc, je voulais vraiment rebondir sur ce qu'il a dit et dire qu'en réalité, il faudrait que tous les élus de France, tous les maires de France diffusent ce message et mettent en valeur des gens issus de
monsieur le conseil régional, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous faites. Vous allez à mitiger?
Elle a raison, mais parce qu'en fait, derrière tout ça, il faut quand même que nos auditeurs le sachent. D'abord, monsieur Rabé, c'est bien, il fait de la politique, il est issu de la gauche. Et le message est intéressant, mais ce que vous dites est pertinent, et c'est pour ça que j'y souscris. Vous dites, il faudrait raisonner comme lui. Raisonner comme lui, moi, ça ne me dérange pas. En revanche, quand on regarde ce qui se passe et qu'on ouvre le couvercle de ce qui se passe à Trappes, il ne faut pas que l'arbre au Marcy cache la forêt, quand même, de la dégradation de cette ville, de la communautarisation qui se passe dans cette ville, du fait qu'il y a des taux de pauvreté qui sont incroyables, et j'irai même plus loin, du fait que la gauche a mis sous une forme de coupole de misère des gens qui se trouvent dans ces quartiers-là. Et d'ailleurs, si vous regardez bien l'histoire de la gauche dans ces endroits-là, là, je suis content parce qu'au moins au Marcy, bon, au Marcy, c'est un Français. Mais avant, vous aviez des boulevards Lénine, des boulevards Staline, des endroits dans lesquels le Parti communiste tenait sous sa coupe des endroits entiers et qui ont fait que ces endroits ne se sont pas développés. Donc c'est bien. Les symboles, c'est intéressant. Dans la vie, il n'y a pas de sujet. Donc vous avez raison, peut-être que sur le raisonnement, c'est intéressant. Mais la réalité du bilan de ce maire-là.
Il n'est pas communiste, lui. Il est plutôt de gauche.
Non, même bien de gauche. Ouais. Voilà. La réalité, c'est que ces endroits-là se dégradent et que la belle diversité et la belle richesse culturelle qu'il évoquait, ben, elle a maintenant 30 ans. Parce que Marcy, il n'est pas tout jeune. Et Jamel Debbouze, il n'est pas tout jeune. Nicolas Anelka, il a 40 ans. Et les Nicolas Anelka d'aujourd'hui, les Jamel Debbouze ou Léo Marcy, attrape, je pense que ce serait plus compliqué.
Non, mais c'est un problème de société aussi, ouais, ce que vous décrivez.
Oui, bien sûr, ouais, un véritable.
Dans ce cas, il n'a aucun pouvoir.
On fait un tour de table. Karim Alouache, bonjour. Il est banquier d'affaires, mais il est également aussi l'élu de Bondy. Bonjour.
Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais rebondir sur ce que j'ai entendu.
Oui.
Ça me fait un peu sourire de critiquer les communistes. Moi, si j'ai le parcours que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à eux, Aubervilliers. Alors, c'est pas ceux d'aujourd'hui, effectivement, parce qu'ils nous ont apporté l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès au voyage, la gratuité sur tout ça. Et si j'avais pas rencontré ces gens-là, gamins, je pense que j'aurais pas le même parcours maintenant. Ce qui m'intéresse dans le discours, c'est j'entends. On est toujours content quand quelqu'un d'adversité, c'est un footballeur ou un acteur. Mais ça, c'est pas la vraie vie et c'est plus exceptionnel. Vous avez plus de chances de faire une grande école que de devenir une star du cinéma ou du football. Il faudrait un peu songer à mettre en valeur, y compris pour les partis politiques, qui le font très rarement, les personnes qui ont des parcours normaux, éducatifs, qui font des carrières et qui agissent dans leur quartier.
On le fait régulièrement. Karim Malouf,
oui, le discours, il parle d'une pratique, d'une certaine gauche, mais c'est une gauche républicaine, laïque, sociale, humaniste. Mais la gauche d'aujourd'hui, elle est communautariste, une grande partie, elle est communautariste, elle est racialiste, et les gens qui habitent dans ces quartiers, il faut aller les voir, c'est pas vrai. Le trafic de drogue domine, il y a de la violence, il y a beaucoup de choses, les gens quittent les quartiers. Donc il faut dire qu'il y a la paupérisation dans ces quartiers. Donc c'est beau de dire qu'on a un message d'unité et développé. Mais quand il faut faire l'union de la gauche, moi je ne ferai jamais l'union de la gauche avec la gauche Hamas, avec les gens qui soutiennent, qui considèrent que la Hamas est un mouvement de résistance, qui demande à faire l'intifada en plein Paris, et demande à la guerre civile. Non, on n'a pas d'alliance à faire avec ces gens-là.
Je pose une question au maire de Trappes. Est-ce qu'il y a une seule des personnes qu'il a citées qui vient encore à Trappes?
Aucun.
Qui se pose la question pour
aucun.
Bonne question, mais peut-être leurs parents. Les parents, peut-être.
Ouais.
Les parents,
oui, les familles sont toujours là.
On lance une pause et on se retrouve tout de suite après, justement, pour lancer les débats.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. 19h-20h. Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés, je vous le disais tout à l'heure, avec Rachida Kaout, avec Jonas Haddad, avec Karim Maloum et enfin Karim Alouache. Messieurs, mesdames, madame, messieurs plutôt. Oui. Nous allons parler de Sciences Po. Alors, Sciences Po qui dit clairement aujourd'hui, on demande la justice pour la Palestine et on nous envoie la police. La manifestation, les rassemblements pro-palestiniens, beaucoup réagissent, ça fait beaucoup de réactions. Et alors, certains aussi qui disent, mais attendez, c'est l'histoire aussi de Sciences Po, c'est toute une symbolique, c'est la symbolique de Sciences Po, ça s'est toujours inscrit dans l'histoire, ça date pas d'aujourd'hui. Rachida Kaout, parlons-en. Tiens, à vous la parole.
Oui, aujourd'hui, bon, moi je vais le répéter, hein, ce que je déplore, c'est l'importation. L'importation, finalement, d'un conflit où je suis persuadée que si on interroge ces étudiants, eh bien, ils ne savent même pas quelle est l'origine même du conflit israélo-palestinien. Et c'est ce qui m'interpelle aujourd'hui. C'est ce qui m'interpelle. Non, non, c'est pas une histoire d'idées, en fait. C'est ce qui m'interpelle et c'est ce qui est en même temps un danger. Parce que moi, des lieux comme Sciences Po ou des universités lambda, ce sont des lieux où on débat, ce sont des lieux où on échange, ce sont des lieux où on essaie de comprendre qui est l'autre.
Mais il n'y a pas de débat,
Sciences Po. Mais justement, ce sont des lieux, c'est ce qu'il devrait y avoir. Ouais. Ce sont des lieux où l'élévation intellectuelle, en fait, apporte des solutions. Et moi, aujourd'hui, je refuse d'avoir, si vous voulez, des étudiants qui sont, pour moi, à mon sens aujourd'hui, manipulés et qui, vous savez, quand j'étais étudiante à l'université, on avait exactement aussi ce fameux conflit israélo-palestinien. On avait aussi ces manifestations de boycott. J'étais à la Sorbonne. Donc, on avait les bancs de la fac.
La Sorbonne,
qui était
ça aussi, la Sorbonne.
Oui, bien c'est sûr, vrai, on a vécu ça. Mais en même temps, ce que je veux... Ce que